Après 1960 et les indépendances, les pays africains ont donc connu la poursuite du pillage impérialiste sous différentes formes. Mais cela n'a pas été sans conséquences politiques pour les États africains. Au fil du temps et des répressions, les dictatures, dont certaines ont duré plusieurs décennies, se sont usées et ont concentré toute la haine des classes populaires. Au début des années 1990, ces appareils d'État étaient donc en voie de décomposition et les révoltes populaires menaçaient tous les discours. D'un côté, il y avait des millions de paysans chassés de leurs terres par les cultures d'exportation et la misère, des millions de travailleurs aussi contraints de survivre dans des villes tentaculaires, en proie eux aussi à la misère. Et de l'autre, les cliques au pouvoir qui volaient tout ce qui pouvait être volé et affichaient en lutte ostentatoire. Même l'aide alimentaire qui est venue régulièrement tenter de pallier les famines récurrentes dans les années 1970, dans les pays les plus pauvres, a été pillée par les clans au pouvoir. Dans cette ambiance de vol généralisé, les soldats, les policiers, les petits fonctionnaires, les douaniers avaient l'habitude de se payer sur la population. Les appareils d'État étaient minés par la corruption dont l'origine première, ne l'oublions pas, est à Paris, dans les beaux quartiers, les sièges sociaux des entreprises. Et cette agence de VRP spécialisée dans la promotion du capitalisme français qu'on nomme l'Élysée. À la Gaule, en 1990, Mitterrand, président de la France-Afrique de l'époque, prononça un discours sur le multipartisme en Afrique. Il cherchait à sauver les appareils d'État si utiles aux peuples français en leur proposant un ravalement de façade. Mais en régime capitaliste, la démocratie, même la plus formelle, est impossible dans des pays soumis à l'exploitation sévère, et où les populations luttent pour ne pas sombrer dans la misère totale. Alors que dans ces pays, des régimes parlementaires se sont mis en place, cette ouverture ne concernait que les milieux dirigeants. Grâce au multipartisme, de nouveaux politiciens pouvaient espérer accéder au poste de commandement. Au lieu d'un seul dictateur et de son clan au pouvoir, les pays allaient se retrouver avec deux ou trois clans et chefs de clan, s'affrontant pour avoir la main sur les ressources de l'État. Mais pour la population, il n'y eut pas de réelle avancée démocratique. Dans le reste de la société, dans les quartiers, les villages, les classes populaires sont restées soumises à la loi de l'homme qui porte une forme, à la domination du notable, à la pression des exploiteurs. Et pour les militants ouvriers, pour les travailleurs en lutte, il est encore moins question de démocratie. Ils sont toujours, aujourd'hui encore, pourchassés, emprisonnés, voire assassinés. Malgré le vernis du multipartisme, les régimes ont continué à se montrer dictatoriaux envers les classes populaires. Les élections furent bien souvent truquées, manipulées ou carrément annulées. Mais comme il fallait bien donner le change, les partis se cherchèrent des soutiens politiques, des appuis. Et la plupart du temps, ils les trouvèrent en utilisant la démagogie ethnique. Depuis les indépendances, l'ethnisme représente une carte pour accéder aux privilèges. Faire partie de l'ethnie du président revient à faire partie du clan qui peut piller les caisses de l'État. Et puis, l'exemple, comme pour le reste, vient des puissances coloniales, qui ont largement utilisé les rivalités ethniques au besoin en les attisant ou en les créant. Alors, utiliser l'ethnisme pour canaliser le mécontentement social ou légitimer la course au pouvoir devint une pratique courante des États africains et de leurs politiciens. Seulement dans de nombreux pays, les conséquences ont été dramatiques. La décomposition des États, le renforcement démagogique de l'ethnisme, la misère montante, sans oublier la raison principale, la pression accrue du pillage des forces impériales. Tout cela a donné lieu à des guerres civiles, plus atroces les unes que les autres. Certains États ont été réduits en poussière et leurs armées ont explosé en de multiples bandes d'hommes armés, au sens premier du terme, qui se sont affrontés pour prendre le pouvoir. On a vu cela dans de nombreux pays, au Sierra Leone, au Liberia, en Côte d'Ivoire, dans notre sol. Le Congo, ex-Zaïre, est ravagée par une guerre qui dure depuis 20 ans dans l'est du pays. Elle a fait des millions de morts. Le principal moteur de cette guerre réside dans les richesses minières considérables du Congo. Le diamant, l'or, le cuivre, mais aussi le coltan, ce minerai indispensable à la fabrication des téléphones portables. Ces minerais enrichissent les postes impérialistes, évidemment. Et ces postes savent se servir des bandes armées pour leur fournir les matières premières voulues. On a un petit aperçu de ce qui se passe au Congo dans un livre intitulé Tandji, écrit par les deux médecins qui soignent les milliers de femmes violées et mutilées au Kivu, la région du Congo où se déroule cette guerre. Ils sont au cœur de la barbarie chaque jour, mais ils mènent le combat et leur commentaire est à partager. Je vous le dis. Le drame du Kivu n'est rien d'autre que l'illustration parfaite de ce vers quoi nous nous dirigeons, l'aboutissement d'un système capitaliste débridé. Tandji, l'hôpital où ils soignent les femmes, est la victime du monde dans lequel nos enfants vivront si nous ne réagissons pas. Ce qui se passe en Afrique n'est pas lié à un retard de développement, comme on voudrait le faire croire. Au contraire, c'est parce que leurs richesses sont au cœur de l'exploitation capitaliste que bien des pays d'Afrique connaissent une barbarie sans nom, mais pas sans responsable. Alors, on pourrait croire qu'on a touché le fond et que le pillage de ces continents ne peut pas aller plus loin. Mais c'est mal connaître ce dont la bourgeoisie mondiale est capable dans le domaine de l'oppression. Son système économique a beau être à bout de souffle, elle persévère à imposer sa dictature sur le monde en ne reculant devant aucun moyen d'accroître ses profits, quelles qu'en soient les conséquences. On se souvient tous de la crise de 2008 liée à la spéculation des banques sur les produits techniques, dans l'immobilier en particulier. Mais cette folie spéculative a aussi frappé le secteur des matières premières, avec des conséquences dramatiques pour les classes populaires en Afrique. Entre 2002 et 2008, les sommes investies dans cette spéculation sur les matières premières ont augmenté de 500%, avec comme conséquence directe une hausse sans précédent des prix des aliments comme le blé, le riz et autres céréales. Et en 2008, au sommet de cette folie spéculative, ces prix doublèrent encore en l'espace de quelques mois. Pour certains pays contraints à importer 85% de leur alimentation, cette flambée mondiale des prix alimentaires revenait à une véritable condamnation. Des millions de personnes sombrèrent dans la famine ou la disette. La révolte des peuples, refusant de se laisser affamer, se traduisit par des émeutes de l'enfant dans nombre de ces pays pauvres. Certains diront que tout cela est lié à l'offre à la demande, aux lois du marché, aux sécheresses et autres calamités naturelles. Un seul chiffre pour vous répondre. En 2011, seuls 2% des transactions sur les marchés des matières premières correspondaient à des échanges réels de ces produits. Le reste, 98%, ne résultait que de transactions purement financières. L'alimentation est un des besoins vitaux de l'humanité. Spéculer dessus est tout simplement un crime, mais un crime tout ce qu'il y a de plus respectable dans les capitales des pays riches. Et parmi les criminels, on trouve quatre groupes bancaires français : la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole LCL et le groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Gèrent au moins 18 fonds d'investissement dédiés spécialement à la spéculation sur les matières premières. Mais dans le monde capitaliste, une calamité ne vient jamais seule. En lien avec la financiarisation de l'économie en Afrique, des centaines de millions d'hectares de terres arables ont été accaparés et les paysans les cultivant jusque-là spoliés. En Afrique, beaucoup de terres ne sont pas cadastrées. Et les droits de propriété coutumiers sont différents des droits de propriété bourgeois. Ce qui permet aux autorités de vendre des terres cultivées par des paysans depuis des décennies. Au cours des dernières années, au Sénégal, près d'un demi-million d'hectares ont été cédés à des sociétés agro-industrielles étrangères. Les paysans se trouvent alors chassés des terres cultivées, sans d'autre choix que d'aller grossir les bidonvilles ou, pour une infime minorité, d'être employés sur les nouvelles plantations. Les raisons sont multiples de ce phénomène d'accaparement des terres. avec la spéculation sur les matières premières dont j'ai parlé, le prix des terres arables a augmenté, capturant aussi les requins de la finance pour de la pure spéculation. L'agriculture est aujourd'hui la lumière rayonnante de l'univers des investisseurs et elle promet des profits élevés sur des marchés faciles. Pouvait-on lire dans une brochure destinée à ces spéculateurs? Un des plus grands gestionnaires de fortune de New York, BlackRock, a créé un hedge fund spécial pour acquérir des terres agricoles et spéculer dessus. Quand ce n'est pas pour spéculer directement, l'accaparement des terres contribue aussi pour accroître encore les productions industrielles destinées à l'exportation. De grands groupes capitalistes de l'agroalimentaire négocient alors l'achat des terres avec les autorités au détriment des paysans. À ce propos, un mot sur la Chine, dont certains essayent de faire le principal prédateur de l'Afrique, en particulier sur la question de l'accaparement des terres. En réalité, la Chine n'a acheté que 4% des sols accaparés récemment, pendant que les capitalistes occidentaux en accaparé 50%. Plus généralement, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont réellement augmenté ces 15 dernières années. La Chine importe des matières premières et du pétrole pour les besoins de son industrie et exporte ses produits manufacturés. Mais il faut replacer le tout dans le contexte de l'économie mondiale et de la place réelle de la Chine dans cette économie, c'est-à-dire une place subalterne face aux puissances impérialistes dominantes. Par exemple, la Chine importe du cobalt d'Afrique pour fabriquer des téléphones portables. On pourrait y voir un exemple de domination impérialiste. Du moins, si on oublie qu'une grande partie de ces téléphones fabriqués en Chine le sont dans des entreprises américaines ou sous-traitant de grands groupes impérialistes. En fait, l'économie chinoise reste surtout l'atelier du monde et continue en grande partie à produire pour les métropoles impérialistes. La Chine prête aussi à certains pays africains, profitant du fait que les institutions internationales refusent désormais de les faire après leur avoir imposé des cures d'austérité drastiques. Quand des entreprises chinoises viennent s'installer dans des pays africains, l'avidité de ces patrons et la férocité de leur exploitation n'ont rien à envier à celle de n'importe quel capitaliste du monde, c'est vrai. Mais leur présence souligne surtout à quel point les impérialistes n'ont rien fait pour développer les infrastructures africaines durant les deux siècles de leur domination de cette partie du monde. Alors parler de l'impérialisme chinois en Afrique relève surtout de la défense inconditionnelle des positions françaises. Mais par contre, on peut souligner que les grandes de la Chine montrent le problème de fond des capitalistes français aujourd'hui. Les anciennes colonies françaises d'Afrique ne constituent plus leur pré carré exclusif. Ils sont soumis à la concurrence des autres pays. C'est d'ailleurs pour cela, pour les aider à protéger leurs intérêts contre leurs rivaux, que la France-Afrique est loin d'être morte. Il suffisait de regarder Hollande parader lors du sommet de Bamako de janvier dernier pour le comprendre. Les liens entre l'État français et les dirigeants africains sont toujours aussi étroits. Au Gabon, c'est le fils de Marc Bongo, Ali Bongo, qui dirige depuis 2009 et réprime toute forme d'opposition avec le soutien sans faille de la France. Au Congo, Denis Sassou Nguesso est toujours au pouvoir après plus de 35 ans de dictature et une guerre civile qui a fait des milliers de morts. Il a pu manœuvrer et changer la constitution du pays en 2016 pour pouvoir se représenter aux élections sans que Hollande y trouve un refuge. En Côte d'Ivoire, en 2011, les militaires français sont intervenus directement pour aider Alassane Ouattara, ancien ministre du Sud-Boni et ancien de l'Évangile-Boni, à remplacer Laurent Gbagbo. Et ces militaires en ont profité pour reprendre en main la formation de l'armée ivoirienne. Même les mercenaires, les barbouzes, sont toujours là en Afrique. Au Togo, la dictature, celle du père, puis du fils et la démarche, est protégée par des sociétés de sécurité privée. L'une d'entre elles, SAS Togo, elle s'appelle comme ça, est dirigée par deux ex-gendarmes de la cellule antiterroriste de l'Élysée sous Mitterrand, dont le plus connu de ses ex-gendarmes est le capitaine Barille. Au Cameroun, la lutte contre le terrorisme a servi de prétexte à Hollande pour recevoir en grande pompe à l'Élysée le dictateur Paul Biya, en place démocratiquement depuis 1982. Par ailleurs, Hollande s'est glorifié de l'intervention militaire au Mali, la présentant comme un succès. La réalité est bien différente. Si les milices intégristes ont été stoppées au nord de Bamako, la situation reste totalement chaotique dans tout le Sahel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, non seulement l'armée française est toujours au Mali, mais son intervention s'est élargie aux quatre autres pays du Sahel. La question des Touaregs n'est pas résolue, malgré un accord piloté par Paris. Quant au gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, il est tout aussi corrompu que le précédent. Il ne tient que grâce au soutien militaire français. Et surtout, la misère, résultat du pillage du pays par l'impérialisme français, est toujours la même, que ce soit dans le nord ou dans le sud du pays. En Centrafrique aussi, depuis 2013, le discours sur la lutte contre les terroristes islamistes cherche à faire avaler la population française une nouvelle frontière. L'armée française est intervenue de nombreuses fois en Centrafrique dans le passé. En 1979, après avoir tant soutenu Bokassa, Giscard l'a fait renverser et ressorti David Dacko, le premier président du pays, dont la France s'était débarrassée au profit de Bokassa. À partir de 1979, le pouvoir centrafricain était en fait entre les mains du colonel Jean-Claude Mansou, qui avait servi sous les ordres de Bizan. Puis, après 1990, et le virage du multipartisme, un nouveau président gouverna sous couvert d'élections en Centrafrique. Mais l'armée française dut le sauver trois fois face à des mutineries. En 2003, François Bozizé, ancien chef d'état-major de Bokassa, prit le pouvoir avec le soutien du Tchad, c'est-à-dire la France. En 2007, l'armée française vint au secours du dictateur de Bozizé, menacé par une rébellion. Puis, sentant qu'il était devenu impossible à soutenir, en 2013, Paris laissa les rebelles renverser Bozizé. Mais le nouveau gouvernement n'était pas plus capable d'instaurer la stabilité nécessaire aux affaires de la bourgeoisie. Le pays se trouva alors ravagé par les exactions des milices, celles du pouvoir et celles des partisans de Bozizé, tout ayant été armé et soutenu par la France à un moment ou à un autre. Et donc, en novembre 2013, Laurent Fabius annonçait l'intervention militaire française en Centrafrique. Depuis, cette présence n'empêche absolument pas les massacres dans ce pays. Et encore, nous ne parlerons pas des exactions commises par les soldats français eux-mêmes. Je rappelle que toutes les armées coloniales du monde sont contaminées par le même racisme et la même capacité à piétiner les populations et à les torturer. Le pays n'échappe ni à la guerre ni à la misère. Mais les affaires continuent tranquillement à s'enfoncer. La famille Rougier continue à s'enrichir grâce au trafic de bois exotiques, Total grâce au carburant, Areva grâce à l'uranium, le groupe Castel avec le commerce des boissons, et la CFAO, ancienne compagnie commerciale du temps de la colonisation, rachetée par Pinot, avec celui des véhicules. Et ce ne sont que quelques exemples de la situation entretenue par l'impérialisme français en Afrique. Si Hollande, au cours de son mandat, s'est montré encore plus bat-en-guerre que Sarkozy, ce n'est pas seulement par amour du fond du canon, mais parce que pour continuer à exploiter les pays africains, malgré leur situation désastreuse, l'impérialisme doit user encore plus de la violence. Comme au temps de la bourgeoisie commerçante naissante, où pour développer les profits, il avait fallu la violence des rapines et de l'esclavage. De même qu'il a fallu la violence colonialiste au début de la bourgeoisie industrielle et du développement de l'impérialisme, aujourd'hui il faut encore la violence des armadas modernes à l'époque de l'impérialisme pourrissant que nous vivons. Actuellement, on peut lire régulièrement dans les journaux des articles sur la croissance économique extraordinaire des pays d'Afrique. Le président de Côte d'Ivoire s'est glorifié il y a peu, je cite, « L'économie de la Côte d'Ivoire est au mieux. Le PIB a un taux de croissance à deux chiffres. Les perspectives pour les années à venir sont bonnes. Nous serons un pays émergent à l'horizon 2020. En effet, après des années de crise et de refus, certains pays africains sont de nouveau un eldorado pour les investisseurs capitalistes. Mais il ne s'agit pas du décollage de l'Afrique ou autre baliverne qu'on nous sert depuis des décennies pour nous faire croire à l'avenir du système capitaliste. Mais il s'agit de la poursuite et même de l'aggravation encore du pillage et d'exploitation par l'impérialisme. En effet, cette croissance ne permet pas une amélioration du niveau de vie de la population, bien au contraire. La plupart des économies des pays d'Afrique noire, comme le Mali, la Mauritanie, le Tchad, reléguées au rang de fournisseurs de matières premières, sont restées arriérées depuis les indépendances. Mais en même temps, cette exploitation des matières premières, des minerais, du pétrole, nécessite des ponts de chemin de fer, des routes, des postes pour exporter. Alors, certaines régions connaissent un développement industriel dit moderne. Et ce sont les États africains qui investissent des fonds publics dans ces chantiers. Ils font le choix, non pas d'assainir les quartiers populaires, de réparer les routes, de rendre potable l'eau ou de mettre l'électricité dans les bidonvilles, mais de développer des infrastructures utiles aux grands capitales internationales. Et c'est ce qui se cache en partie derrière ce terme de croissance. D'autre part, même réduite à l'exploitation de matières premières, l'économie capitaliste a bien fini pour permettre l'enrichissement d'une longue course de privilégiés locaux, occupant généralement les sommets de l'appareil d'État, ou cadres intermédiaires pour les comptes des entreprises occidentales. Il s'est développé en Afrique des couches privilégiées, une bourgeoisie moyenne et petite. Il existe de plus en plus de milliardaires africains, 29 sur 1800 recensés à l'échelle de la planète. 200 bourgeois possèdent plus de 200 millions de dollars dans l'Afrique francophone subsaharienne. Même Madagascar, pays le plus pauvre du monde, compte 4 familles parmi ses grosses fortunes. Et ces riches reproduisent les conditions de vie luxueuses de leurs homologues occidentaux sans vergogne dans cet océan de misère qui est Afrique. Dans les quartiers aisés des villes, des hôtels haut de gamme, des centres commerciaux et des magasins de luxe voient les yeux. Tout cela constitue un marché de biens de consommation, d'opérations immobilières, de construction d'infrastructures. Cet enrichissement d'une petite partie de la population change l'aspect de certaines villes comme Abidjan, mais ce n'est qu'une vitrine. En même temps qu'on assiste à une accumulation de fortune entre les mains d'une petite minorité, une partie de plus en plus importante de la population africaine affronte une misère grandissante. L'argent public, utilisé pour payer les rois du béton occidentaux qui profitent de ces chantiers, comme l'ensemble des richesses qui permettent l'existence de ces classes privilégiées, sont toutes arrachées aux classes populaires. Pendant ce temps, l'Afrique subit une recrudescence de maladies que l'on croyait totalement sous contrôle, comme le typhus, la dengue, la tuberculose ou le choléra. La rougeole demeure une des principales causes de décès des enfants en Afrique. Pourtant, un vaccin efficace et plus cher existe. La dose ne coûte que 25 centimes de dollars. Selon l'ONU, 200 millions de dollars suffiraient à les distribuer dans les pays du monde où la maladie frappe le plus. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. À Dakar, on estime à 50 000 le nombre d'enfants qui mendient dans les rues pour obtenir quelques pièces ou de la nourriture, alors que le gouvernement ne cesse de se féliciter du fait que le Sénégal serait en train de devenir un pays émergent. Alors, qui peut croire que des siècles d'oppression et d'exploitation vont s'effacer avec la construction de centres commerciaux clinquants et d'hôtels de luxe? Mettre fin à la misère en Afrique nécessiterait de réorganiser l'économie entière de ce pays et de la planifier en fonction des besoins des populations et non en fonction des besoins de métropoles capitalistes. De développer la mécanisation de l'agriculture vivrière et de favoriser la fin de la monoculture. De planifier une urbanisation réelle pour mettre fin aux bidonvilles et donner accès à une vie décente à des millions de prolétaires. Ce serait une transformation immense qui ne pourrait se faire qu'en mettant les rênes de l'économie dans les mains des travailleurs, en lien étroit avec les travailleurs des pays riches pour débarrasser le monde de la dictature des forces impérialistes. A contrario, le développement du capitalisme dit moderne en Afrique non seulement ne met pas fin à la misère, mais s'accompagne en réalité d'une dégradation du niveau de vie pour l'ensemble des classes populaires. Avant tout, parce que l'intégration de l'Afrique au capitalisme signifie pour des millions de paysans la nécessité d'abandonner leur village et l'autosubsistance du fait des cultures d'exportation. Même en Côte d'Ivoire, un des pays les moins pauvres de cette partie de l'Afrique, où il ne manque pourtant ni d'eau, ni de terre à cultiver, la famine a fait l'apparition. C'est d'autant plus révoltant que ce pays est le premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, par ailleurs grand producteur d'EVM, de palmiers à huile, de café et de coton. Dans tous les pays d'Afrique, ces millions de paysans déclassés sont venus peupler les bidonvilles des villes qui ne leur offrent aucun avenir. Et ces millions d'habitants des bidonvilles sont forcés de s'intégrer à l'économie de marché qui les droit. Les deux tiers des 6 millions d'habitants d'Abidjan habitent des bidonvilles. Et ils sont régulièrement obligés de s'éloigner du centre et donc de leur emploi après des opérations dites de déguerpissement, liées à la spéculation immobilière. Et ils sont obligés de payer ou de marcher pour aller travailler. Aussi faible soit leur consommation, ils représentent un marché potentiel. Car les capitalistes savent très bien et depuis très longtemps gagner de l'argent pour le dos des plus pauvres. Même un cabanon dans un bidonville nécessite du ciment et de la tôle ondulée qu'il faut acheter. Les grands postes de la téléphonie parviennent à faire sortir les derniers sous de la poche d'un salarié mal payé pour lui vendre un téléphone portable ou même lui quelques minutes de communication. Partout où se crée un nouveau foyer du capitalisme, les prix s'envolent, aggravant encore la pauvreté de la majorité. Car c'est la loi dans l'économie capitaliste. Le capitalisme se développe en accentuant les inégalités et en aiguisant les contradictions de classe. Mais dans sa course à l'oppression et au pillage, le peu que les capitalismes développent de modernité et d'industrie est quand même un gage pour l'avenir. Car comme le disait Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste en 1847, en se développant, la bourgeoisie produit aussi ses propres fossoyeurs, le prolétariat. Les usines modernes sont construites dans certaines villes d'Afrique. Elles peuvent ressembler en bien des points à celles de l'Occident, à ceci près que les salaires y sont 10 fois moindres. Mais elles concentrent des milliers de travailleurs. Ce prolétariat africain connaît les conditions d'existence des débuts de l'industrialisation à Londres, à Paris ou à Manchester. Les bidonvilles, la violence de l'exploitation, la contradiction entre la modernité de l'industrie et l'arriération des conditions de vie. En Côte d'Ivoire, avant 1985, le salaire d'un travailleur pouvait tant bien que mal assurer les repas quotidiens. Aujourd'hui, les familles ouvrières se contentent d'un seul repas par jour. Il est constitué d'un peu de riz avec une sauce à base de légumes et un peu de poisson. La viande ne fait plus partie des menus des familles ouvrières depuis bien longtemps. Le capitalisme bimodèle s'appuie sur l'exploitation féroce de millions d'ouvriers. Plus l'industrie se développe, plus le salaire diminue et la précarité s'amplifie encore. C'est un prolétariat moderne, mais sans tradition politique, mais nullement résigné pour autant, qui apparaît en Afrique. Des luttes ouvrières ont lieu dans bien des pays africains, y compris ceux dont l'économie est la plus améliorée. Comme en Mauritanie, petit exemple, en 2016, dans la mine d'or de Tadiast, l'une des principales d'Afrique de l'Ouest, 2600 ouvriers y ont fait grève durant 18 jours contre les reculs que voulait leur imposer la direction. Ils n'ont repris le travail qu'après avoir gagné et obtenu qu'aucun grévif ne soit licencié. Un autre exemple, un mot sur une grève que nos camarades de l'UATCI, l'Union africaine des travailleurs communistes et internationalistes, ont suivi de près. En octobre 2015, en Côte d'Ivoire, la grève a démarré sur un chantier de l'entreprise de bâtiments tunisienne Soruba, classée numéro 1 devant Bouygues en Côte d'Ivoire. Les grévistes désignèrent une délégation se sont distancés sur le champ. Ils organisèrent alors des petites grèves pour exiger la réintégration de tous et réclamèrent aussi des améliorations des conditions de travail et des arriérés de salaire. À 150 grévistes, ils entraînèrent plus de 350 ouvriers des autres chantiers parisiens. Plusieurs dizaines de travailleurs furent renvoyés et les délégués systématiquement distanciés tout au long de la grève. Quelques dizaines furent mis en prison, dont le secrétaire général du syndicat, qui écopa de 20 jours de prison. Mais l'organisation et la conscience des ouvriers du bâtiment en sont ressortis renforcés. Partout, les travailleurs qui entrent en lutte doivent affronter la violence de l'exploitation, mais aussi la violence des forces de l'ordre, la prison, les licenciements. Ils apprennent à s'organiser. Ils découvrent que tout en produisant toutes les richesses, le système capitaliste ne leur permet même pas de nourrir leur famille, encore moins de se loger dignement. Ces ouvriers jeunes, qui luttent contre un capitalisme moderne dans sa production et toujours aussi arriéré dans son oppression, sont l'avenir des classes opprimées du continent africain. Dans les palmeraies gigantesques, dans ces plantations issues de l'accaparement des terres, il existe aussi un prolétariat agricole tout aussi exploité. Sans parler des creuseurs, des orfailleurs des mines d'Afrique de l'Ouest, du Congo ou d'ailleurs, sans parler du prolétariat d'Afrique du Sud, le plus important du continent. Cette force immense deviendra une force révolutionnaire en prenant conscience que de l'Algérie à l'Afrique du Sud, il forme un prolétariat unique, puissant face à l'impérialisme. En prenant aussi conscience de sa place dans le capitalisme mondial et de son rôle dans l'histoire. En Afrique, le prolétariat pourrait d'autant plus naturellement offrir une direction politique aux masses pauvres immenses qui survivent dans les métropoles, que non seulement il est historiquement porteur de la seule perspective d'abattre le capitalisme de l'échelle mondiale, mais les prolétaires africains vivent dans les mêmes quartiers, les mêmes bidonvilles que ces millions de paysans chassés de leurs terres, que ces millions de jobbers à qui la société capitaliste n'offre aucun avenir. C'est le capitalisme le plus moderne qui crée les situations sociales les plus explosives en ce moment même en Afrique. Cette classe ouvrière africaine doit refaire le chemin, l'histoire du mouvement ouvrier, et hélas trop souvent sans le soutien du mouvement ouvrier européen, qui a largement été dénaturé par le réformisme des États-Unis. Pourtant, nos forces sont liées aujourd'hui comme hier. Depuis deux siècles, c'est la même oppression impérialiste qui nous broie en Europe comme en Afrique. Elle n'a pas la même forme, c'est vrai. Ici, nous n'avons pas connu le travail forcé, le portage et les codes de l'indigénat. Mais les travailleurs européens ont payé de deux guerres mondiales la volonté de leur propre bourgeoisie de dominer le monde et de se repartager les colonies. Et ils se sont trouvés dans les mêmes tranchées que les exploités coloniaux en 1914 et dans les mêmes camps de prisonniers en 1940. Aujourd'hui, ce sont nos forces d'Afrique et du Moyen-Orient qui meurent en Méditerranée sur des bateaux de fortune, qui subissent les passeurs et affrontent les barbelés partout en Europe. Parce que le capitalisme qui nous exploite ici n'offre pas d'autre perspective aux jeunes de bien des pays d'Afrique noire que de partir pour tenter de trouver un moyen de survivre en Europe. Et si nous nous laissons diviser, si nous ne prenons pas conscience de l'identité absolue de nos intérêts, nous le paierons ici, en subissant plus fort encore les coups de nos exploiteurs et en nous laissant manipuler par les démagogues racistes. Mais tant que des femmes et des hommes maintiennent vivante la conscience communiste et internationaliste, ils permettent que reste vivante la perspective que des millions de prolétaires réunis par une oppression commune se soulèvent et renversent les vieil ordre capitaliste. En 1917, il y a 100 ans exactement, puisque la révolution russe débutait en février 1917 par des manifestations de femmes ouvrières, le prolétariat russe renversait la monarchie tsariste millénaire. En octobre de la même année, il détruisait le pouvoir bourgeois. Ce prolétariat était jeune, issu des campagnes arriérées de l'Empire Saint-Louis, minoritaire dans un influent paysan. Mais c'est lui qui créa le premier état ouvrier au monde et qui prendait la bourgeoisie mondiale. Dans sa lutte héroïque, il fut entraîné des ouvriers du monde entier. Les échos de la révolution russe aidèrent les damnés de la terre à relever la tête partout, jusqu'au confins de la planète. Alors la meilleure façon de commémorer leur exploit serait de transmettre à tous les prolétaires du monde cette aspiration à un monde meilleur, débarrassé de la dictature de la bourgeoisie.